Aujourd'hui, voudriez-vous faire la prière d'introduction, s'il vous plaît, et le frère Médard nous fera la lecture du texte de ce soir.
Prions notre Dieu. Béni sois-tu, tendre Père, nous voici devant ta face après avoir été chacun vaqués dans ses occupations. Tu nous rassembles avant de dormir pour que nous puissions t'écouter. Comme un bon père qui donne des conseils à ses enfants, même si ces derniers ne sont pas dociles, mais comme père, il ne se lasse pas de le faire parce qu'il croit qu'un jour, les enfants vont se souvenir de ce que papa disait. Tu es notre Père, Seigneur, et tu nous enseignes chaque jour. Nous voici encore une fois. Tes filles et tes fils sont venus de partout et sont là pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Nous sommes autour de toi. Nous savons, Seigneur, que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi, même si des fois nous semblons te tourner le dos, mais par ta grâce, tu nous attires toujours et nous venons. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur pour ce que tu es pour nous. Nous te prions pour nos bien-aimés qui seraient encore loin de nous. Nous te demandons, Seigneur, de presser leurs pas pour que tous ensemble nous soyons prêts à t'écouter. Parle-nous. Que ton esprit nous anime. Que ton esprit nous conduise et que notre modérateur soit rempli de ton esprit pour que ce qu'il dit nous vienne de toi-même et que lui-même soit modélé, transformé par ton esprit. Béni sois-tu, notre Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous te prions. Et disons Amen.
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 Merci, pasteur, pour la prière. Frère Médard, voulez-vous nous faire la lecture dans Romains chapitre 4, les 12 premiers versets?
Merci, pasteur José de Canada, pour la parole. Nous allons lire dans le second. Que dirons-nous donc, Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen.
Amen. Merci frère pour la lecture. Bien-aimés, nous continuons d'apprendre, de méditer, de réfléchir sur la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ. La doctrine qui a été, dont l'élaboration a commencé hier à partir du verset 21 du chapitre 3, alors que Paul faisait une opposition entre ce qu'il avait déjà expliqué en montrant l'universalité du péché, c'est-à-dire que tous les hommes, tous les peuples, où qu'ils soient sur la surface de la terre, ils ont péché. C'est un des versets clés du texte que nous avons vu hier. Romains chapitre 3, verset 23. Paul va confirmer avec force, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que tous ont péché et par conséquent, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous nous rappelons comment Adam et Ève, après avoir péché, après avoir désobéi, se sont retrouvés nus, alors qu'ils ne le voyaient pas avant. Ils étaient, on dirait, habillés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. La désobéissance a créé une séparation entre eux et Dieu. Un abîme s'est creusé entre l'homme pécheur et les dieux saints. Et le verset 24, un deuxième verset clé, de ce que nous avons vu hier, ce que Dieu, dans sa grâce, vient gratuitement justifier l'homme qui a péché à partir du moment où celui-ci se tourne vers Jésus-Christ pour croire en lui, pour croire que tout ce que Christ a fait à la croix, c'est pour lui qu'il l'a fait. Il a porté ce péché dans... Il a porté le péché de l'homme qui a péché dans son propre corps sur le bois. Ainsi, par la foi en Jésus, Dieu justifie gratuitement les pécheurs repentants. Et aujourd'hui, dans le chapitre 4, les 12 premiers versets dont nous venons d'entendre la lecture, Paul va illustrer cette doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ, par un exemple. Et il va, au fait, se référer au fondateur même de la nation juive, le père Abraham, dont beaucoup de juifs ont une grande considération, une grande révérence même. Et Paul va examiner sa vie pour dire à quel moment dans la vie de ce patriarche, Dieu l'a déclaré juste. Et Paul va dire que nous connaissons que le signe d'appartenance, le signe d'entrée dans l'alliance avec Dieu, c'est la circoncision. Mais le fait qu'Abraham a reçu de Dieu la grâce d'être justifié, il ne l'a pas reçu en signe de circoncision, mais il l'a reçu avant d'avoir été circoncis, ce qui est un signe important, un élément important pour tous les autres peuples après. Et Paul démontre que c'est avant la circoncision que Abraham a été déclaré juste. Ça veut dire que c'est uniquement par la foi qu'il a pu recevoir la justification. Et les signes visibles de la circoncision n'est venu qu'après, donc comme un signe de confirmation de la justification que Abraham avait reçue. Mon frère et sœurs, l'élément autour duquel nous devons nous attabler ce soir pour partager encore, c'est vraiment la doctrine chrétienne fondamentale qui différencie encore davantage le christianisme de toutes les autres religions du monde. Parce qu'ici, nous sommes justifiés par la foi, alors qu'ailleurs, on veut être justifié par les actions, par les œuvres que l'on présente devant Dieu. Voilà pour l'introduction de ce texte de méditation ce soir. Je voudrais dire bon retour à notre frère Benoît. Frère Benoît, nous te souhaitons un très bon retour au milieu de nous.
Merci.
Merci, frère.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu peux nous rappeler encore dans quelle ville tu es?
Oui, je suis à Montréal, Canada.
Ah, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci, ça nous fait plaisir de te revoir encore au milieu de nous ce soir.
Oui, c'est un plaisir.
Merci. Alors, voilà, frères et sœurs, nous pouvons prendre la parole pour partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. J'imagine, si vous êtes comme moi, que vous éprouvez, vous ressentez beaucoup de joie lorsque nous lisons que coupables comme nous avons été, comme nous le sommes par la foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes, nous avons été acquittés. Quel bonheur, quel plaisir, quelle joie, quelle profondeur, quel transport d'allégresse, nos cœurs sont en tout cas envahis. Nous bénissons en tout cas notre Dieu. C'est pour cela que nous pouvons, ne fût-ce que dire un mot, pour montrer combien nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous gratifie d'une si intense joie. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons demander la parole pour 2 minutes, partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que nous avons entendu la lecture de la parole de méditation ce soir dans Romains chapitre 4, versets 1 à 12. Oui, Papa Célé, Maman Christine, vous avez la parole.
Oui, merci Papa José pour la parole. Le premier verset nous parle d'Abraham. Cet homme... Ce n'était pas un homme saint, ce n'était pas un homme extraordinaire, c'était un homme de la même nature que nous, né d'une femme. Mais ce qui a fait la différence de cet homme, c'est que Dieu avait un projet pour toute l'humanité avec lui. Il pouvait aussi refuser ce que Dieu lui a suggéré de faire. Dieu lui a dit tout simplement de prendre tout ce qui lui concerne et de quitter sa patrie et d'aller à une terre inconnue. Alors, c'est cette obéissance et cette confiance que Abraham a mis en Dieu qu'il a qualifié à être l'ancêtre de tous ceux qui vont croire des milliers d'années après. Donc, je voulais, dans un premier temps, dans ce verset premier, nous montrer déjà qui est cet homme. Il n'était pas un homme extraordinaire comme notre Seigneur Jésus. C'était un homme de même nature que nous. Mais c'est la confiance qu'il a mis en Dieu, cette obéissance aveugle en Dieu qu'il a réellement fait un homme différent. Merci.
Merci, Papa Célé. Nous bénissons le Seigneur pour l'obéissance de cet homme à travers qui toutes les nations de la terre sont aujourd'hui bénies. Papa Thomas, vous avez la parole.
Dans la même suite d'idées sur Abraham, le passage où Dieu le qualifie qu'il est justifié, il s'agit de, en Genèse chapitre 15, à 14, il vient de vaincre 5 rois et il vient de délivrer les rois de Sodome et Gomorre et d'autres rois qui étaient vaincus pour délivrer son neveu Lot. Donc, il a humilié 5 rois et il a délivré aussi des rois. Et puis, il rentre dans son camp, dans sa maison. Il a peur. Il est un peu insécurisé parce que, peut-être ces gens vont s'entendre pour venir l'attaquer ou quoi. Il n'a pas d'enfant. Il a de l'âge. Il a de l'âge. Et Dieu va venir à lui, Abraham, en Genèse chapitre 15, pour lui dire que Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier. Je suis ta plus grande richesse. Alors, cet Abraham va dire, oui, mais je n'ai pas d'enfant. Mon héritier, c'est le hasard de Damascus. Mais Dieu va nous dire, non, 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 ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui va venir de ses entrailles. Il sera ton héritier. Un vieil homme de 80, à 7 ans-là, il a déjà 90 ans quelque. Et cet homme-là, le vieil homme-là, il croit que Dieu peut lui donner un enfant, lui, avec sa femme, pour que cet enfant-là soit l'héritier. C'est comme ça Dieu, dans cette foi-là, il va dire, eh bien, je te crédite, tu es juste. Alors que normalement, dans l'Ancien Testament, on obéit au commandement pour être sauvé. Mais lui, déjà, avant même la loi, il croit en Dieu. Et Dieu le déclare juste. Donc, si lui qui est avant même l'ancienne alliance est déclaré juste par la foi, comment moi qui suis dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ déjà donné à la croix, puis-je penser être sauvé autrement que par cette foi placée dans le travail fini de Jésus-Christ? C'est ça donc le cœur du message de ce soir. Je suis sauvé par grâce de Dieu, mais au moyen seulement de la foi, pas autrement. Parce que déjà Abraham, avant la loi, déjà, il est sauvé par la foi. Comme une plus forte raison, moi. Merci.
Merci beaucoup, Papa Thomas. C'est vraiment bon de le répéter et le répéter encore. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu, mais cela au moyen de la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Merci beaucoup. Papa José, vous avez la parole.
Oui, j'aimerais appuyer par un verset ce que vient de dire notre frère Thomas, dans Genèse chapitre 15, au verset 6, qui, à ce moment-là, c'est encore Abraham. Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Et il ajoute, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur » et il continue. Ce que nous trouvons au verset 6 vient juste après, lorsque le Seigneur a dit à Abraham, « Tu auras des enfants. » Lui, il a avancé le nom de Eliezer. Non, et le Seigneur d'ajouter, non, c'est un enfant qui naîtra de toi-même. Alors, au verset 5, il dit à Abraham de sortir de sa tente pour qu'il regarde le ciel. Et lui demande même de compter les étoiles, ce qui n'est pas possible. Alors, Abraham, après avoir vu ceci, il a cru à ce que le Seigneur lui a dit. C'est 6, là où j'ai lu, Abraham a eu confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Donc, ce que nous disons là, ce ne sont pas les histoires de théologie ou l'histoire biblique. Non, c'est la vérité qui est là, qui est là. Un homme eut lieu, un homme a cru et un homme a été justifié. C'est Abraham. Et nous aussi, nous pouvons l'imiter, c'est possible, parce que Abraham fit un homme, nous aussi, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, donc les humains, c'est possible aussi à nous. Merci.
Merci, pasteur. Bien des choses sont dites sur Abraham, comment il a obéi à Dieu, comment il a obtenu la justification par la foi. Et si nous analysons un peu toute la bénédiction dont il est l'objet, Abraham, on vient de nous lire, les deux frères qui viennent de parler viennent de nous lire Genèse 15, verset 6. Dans le même livre de Genèse, au chapitre 12, quand tout a commencé, lorsque Dieu a approché Abraham, le verset 1 à 5, Dieu va lui dire de quitter sa patrie, sa nation, la maison de son père et d'aller dans le territoire que Dieu allait lui montrer. Et Dieu va dire de lui, je vais faire de toi un homme important, je vais te bénir et je vais prendre soin de toi, je vais te protéger, je bénirai toutes les personnes qui te béniront et je maudirai même les personnes qui te maudiront. Donc on voit qu'il est, Dieu le prend sous son aile et cet homme va croire, il va accepter, il va dire oui, je choisis de faire confiance à Dieu. Je ne vois pas Dieu, mais je choisis de lui faire confiance. Comprenons, frères et sœurs, qu'à cette époque, lorsque vous quittez votre patrie, votre nation, c'est les lieux de sécurité, les lieux où, avec le concours des autres membres de la tribu, du clan, de la nation, vous êtes en sécurité. Lorsque vous vous séparez d'eux, vous vous exposez à beaucoup de dangers à l'extérieur. Il va braver cette crainte pour faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, le pasteur José vient de dire, nous aussi, nous pouvons imiter Abraham pour faire confiance à Dieu, croire en Dieu, pour bénéficier nous aussi de cette bénédiction de la part de notre Dieu. Dans Galates chapitre 3, un texte que nous avons repris à plusieurs reprises, il nous est dit au verset 14, de ce chapitre-là, Galates 3, 14, Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Il l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aussi aux non-juifs que nous sommes et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Ainsi, nous avons, nous aussi, aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, nous avons accès à la bénédiction d'Abraham, la même bénédiction, avec la même portée, avec la même profondeur, avec la même grandeur, la même étendue. Cette bénédiction d'Abraham nous est aussi offerte par la foi en Jésus-Christ. Je vais donner la parole au pasteur Richard.
Merci beaucoup, papa, pasteur, pour la parole. J'ai été en train de réfléchir sur le verset 3, à juste cette phrase, « Abraham eut confiance en Dieu ». La connaissance que Abraham avait de Dieu est vraiment inférieure par rapport à la connaissance que moi, j'ai de Dieu maintenant. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas toutes les expériences que nous, de l'autre côté du Nouveau Testament, nous avons. Et, du moins, connaissant la grandeur de Dieu, Dieu qui a créé l'univers, Dieu qui garde mon cœur battre, Dieu qui me donne la capacité de respirer au jour le jour. Et c'est vraiment insensé à nous qui sommes de ce côté de la croix du Nouveau Testament de ne pas avoir confiance en ce Dieu-là. Et j'ai revoyé dans ma vie, puisque il y a des temps où c'est vrai que j'ai eu confiance en Dieu, j'ai la foi, je suis sauvé, mais est-ce que j'exerce cette confiance dans tous les domaines? Donc la foi ne peut pas dire, je n'ai pas besoin seulement de la foi pour le salut, mais dans ma marche chrétienne au jour le jour, je dois exercer cette confiance en Dieu. Je suis encouragé encore davantage de voir cet homme Abraham qui n'avait pas de connaissances que nous avons maintenant, mais il a eu confiance en Dieu. Que le Seigneur vraiment m'aide dans n'importe quelle situation de la vie, que je puisse avoir confiance en Dieu. Merci.
Merci, Pasteur Richard. Papa Thomas, vous avez encore la parole.
Oui, bien-aimé, je reste dans le même verset que verset 3. Abraham crut à Dieu. Il a eu la foi. La Bible va appeler Abraham ami de Dieu. C'est rare dans la Bible qu'on dise que Dieu est ami de quelqu'un. Mais dans Ésaïe 41:8, Dieu se présente, mais qui dit, mais toi Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. Dieu dit aux gens que Abraham c'est son ami. Il dit devant les gens, Abraham, et il a changé son nom, il a dit que moi Dieu, appelez-moi Dieu d'Abraham. Le last name, comme on dit nous là, Thomas Mariala, mais le last name de Dieu, c'est Dieu d'Abraham, c'est Dieu d'Isaac, c'est Dieu d'Israël ou Jacob. Donc c'est Abraham, Dieu le déclare ami à lui parce qu'il a cru. C'est à cause de la foi en Dieu qu'il devient même un ami. Même la dîme dont nous parlons, dîme, ce n'était pas une pensée de Dieu. C'est une pensée spontanée que l'Esprit a mis en lui et il a parlé le premier pour dire qu'il va commencer à donner la dîme de tout à Dieu. Il a donné comme ça à Dieu. Il n'y a pas quelque part où Dieu lui dit ça. C'est l'ami de Dieu. Mais aujourd'hui, comment je peux aussi me faire ami de Dieu à part mon salut? La Bible dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais sans cette foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc avec la foi, je peux plaire à Dieu. À part plaire à Dieu, il est dit que quand je m'approche, je dois croire que Dieu existe et qu'il rémunère même ceux qui le craignent. Donc la foi, finalement, je vais l'avoir de par la parole. En Romains 10, 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole sur Christ. Quand je médite la parole sur Christ, donc la foi grandit à moi, mais cette foi-là me rend aussi ami parce qu'on est agréable à Dieu en ayant la foi, pas autrement. Merci.
Oui, Papa Thomas, Papa Gaston, vous avez la parole.
Merci, Pasteur, pour la parole. Je vais abonder un peu dans les versets 3 et versets 6. Je vois Abraham qui a fait confiance. On lui dit de quitter son pays. Il le quitte sans poser des questions. Je pourrais le traiter de naïf. Il se décide, il abandonne sa base pour partir vers l'inconnu. C'est comme un bébé. Et c'est ce que Dieu me recommande. David dit ici que, et dans le verset 6, il proclame « Heureux l'homme que Dieu déclare juste ». Si je dis que je suis heureux, C'est parce que Dieu a accompli, m'a déclaré juste. Je n'ai rien mérité. Alors je me pose la question, je regarde un peu ce bonheur. Pour être heureux, je dois avoir confiance en Dieu. Et je dois être comme ces naïfs. On dit, est-ce que tu connais ce Dieu? Je ne sais pas comment, quelle était la relation tout d'abord Abraham et Dieu. Mais comme le pasteur Richard le disait, je connais Dieu, je vois ce que son fils a accompli pour moi. Mais c'est même Dieu quand il me dit, par exemple, dans les versets 35 des psaumes, 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Un homme heureux, c'est celui qui met sa confiance totale en Dieu. Mais lorsqu'on n'est pas, on ne met pas sa confiance totale, nous voyons devant les problèmes, on dit bon, devant cette situation, aie confiance, j'agis. Et quand je ne mets pas la confiance, je suis tourmenté par des soucis, il y a des maux de tête, il y a des crises cardiaques, ainsi de suite. C'est que j'ai compris et ma joie, j'abandonne tout entre les mains de Dieu, que je lui fasse confiance. Je suis justifié, mais pour la vie courante aussi, que je continue à lui faire confiance. C'est Dieu-là qui m'a justifié et j'ai accès à la vie éternelle. C'est Dieu-là est là pour pouvoir à tous mes besoins, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Amen.
Amen. Merci. Merci beaucoup, Papa Gaston. Papa Célé, Maman Christine, vous avez la parole.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. Le verset 7 et 8 parle de David. Donc, dans ce verset, David nous montre une dimension de ce qui arrive à un homme qui est déclaré juste. Cet homme, il est pardonné. Et comme il est pardonné, David l'appelle heureux, ceux dont Dieu a pardonné les fautes. Le verset 8 continue dans la même lancée. Qu'heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Mais cet homme a du bonheur, cet homme a quelque chose que le monde n'a pas. Ça m'interpelle au plus haut point parce que nous pensons, nous avons une façon de penser, d'être heureux et d'être bienheureux. On pense que ceux qui sont heureux, c'est ceux qui ont des grands postes, des grandes responsabilités, ceux qui ont de grandes maisons, ceux qui ont de grandes voitures. Il y en a même qui se vendent parce qu'ils achètent, ils changent de voiture chaque mois. Mais ces gens, aussi longtemps qu'ils ne sont pas pardonnés, Dieu ne les considère pas heureux. Ceux qui sont heureux, c'est ceux qui sont pardonnés. C'est ceux que, dont Dieu, la colère de Dieu n'est plus sur eux. Le péché a été ôté. Voilà une dimension ou une façon de considérer le bonheur sur la terre. Alors je me dis, ça c'est vraiment une grande leçon pour nous les enfants de Dieu, de ne point envier un païen, quel que soit le bien qu'il possède dans ce monde. De ne pas envier des faux frères qui s'accrochent aux biens matériels et qui se moquent même des enfants de Dieu qui marchent à pied. Le bonheur, c'est quand on est pardonné, quand on est juste, quand on est déclaré juste et quand on vit réellement pleinement avec Dieu. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé. En fait, on nous parle ici de deux expériences que chaque personne qui croit en Dieu devrait ou doit expérimenter. C'est vrai, il est question de part et d'autre, du premier verset jusqu'au verset 5, on parle d'Abraham, on nous le donne comme un exemple. En termes de confiance, il a eu la confiance en Dieu. Et la foi est présentée ici sous forme de confiance en Dieu. Parce que si nous voyons bien, la foi est comme un arbre qui a trois branches. Donc, l'arbre au complet, c'est ça, la foi, mais chacune de ces trois branches est illustrée par ces réalités. Comme ici, nous avons la branche de la confiance, qui veut dire, comme Papa Gaston venait de le dire tout à l'heure, si on n'a pas confiance en Dieu, l'avenir va nous effrayer. On va développer des ulcères d'estomac. On va développer des maladies, des difficultés, parce que nous avons peur, nous craignons, nous avons du mal à voir devant nous, projeter de l'avant. Toutes les difficultés de la vie vont être insurmontables. Finalement, nous allons être écrasés. Et c'est ce qui fait que même le sol de notre âme ne devient plus fertile, parce que tous les soucis de la vie vont alors étouffer tout ce que nous pouvons lire ou entendre comme la parole de Dieu. Donc la foi est présentée ici comme sous forme de confiance en Dieu. Elle peut aussi être présentée sous forme de la croyance. C'est ainsi qu'on parle même du verbe croire au verset 3. On dit « il crut à Dieu et Dieu va lui faire lui imputer la justice. » Mais cette croyance, si on ne s'arrête qu'à l'aspect croyance, ça ne nous mènera pas très loin, parce que l'apôtre Jacques nous dit « tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Mais à la croyance, qui est l'adhésion intellectuelle à quelque chose, l'adhésion intellectuelle à l'existence de Dieu, nous devons ajouter la confiance en Dieu, et ça, les démons ne peuvent pas le faire. Lorsque nous croyons que Dieu existe et que nous lui faisons confiance, nous avons fait vraiment un pas énorme. Et aussi, la troisième branche de la foi, c'est l'obéissance. Si vraiment je fais confiance à Dieu, la confiance que j'ai en Dieu, qui est quelque chose dans mon cœur, se traduit par l'obéissance qui peut être visible, palpable, parce que je choisis alors de faire ce que Dieu me dit de faire. Et c'est ce que Abraham a fait. Lorsqu'il a quitté la sécurité de la famille pour s'exposer même au danger, tout simplement parce que Dieu a dit qu'il prendra soin de lui. Donc en faisant confiance à Dieu, la confiance est devenue palpable, visible, lorsqu'il a quitté, c'est-à-dire lorsqu'il a obéi. Voilà un premier exemple qui nous est donné d'une expérience à vivre. Le deuxième exemple, c'est ce qu'on a du verset 6 à 8, comme le pasteur Célé vient de le dire, c'est la joie d'être pardonné, de recevoir de Dieu le verdict qu'on est pardonné, l'iniquité, le péché que nous avons commis a été ôté. Et Paul l'a exprimé hier, nous avons vu encore dans Colossiens 2, versets 13 à 14, que Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On peut chercher dans le ciel, dans tous les tiroirs du ciel, il n'y a pas un seul document qui nous condamne, tout a été effacé, cloué à la croix, et lorsque nous croyons en Christ, il nous donne, il nous habille de sa justice, et cela, c'est merveilleux. Nous bénissons en tout cas le Seigneur pour cette joie immense qui inonde nos cœurs. Papa Thomas, vous avez la parole.
Merci. Je reviens sur le plus grand besoin de l'homme au verset 7 et 8. Le plus grand besoin de l'homme, c'est le pardon du péché. Mm-hmm. Le plus grand problème de l'homme, c'est le péché et l'iniquité. Et l'unique solution de l'homme, c'est la foi au moyen unique du salut de Jésus-Christ. Donc, je regarde l'homme, j'observe, j'approche les pauvres, j'approche les riches, mais je constate le besoin est le même, le pardon du péché. Cet début de semaine, ça passait, un ami à moi, un grand pasteur, a été invité pour aller avec un groupe de riches pour aller dans les Bahamas. Donc, deux grands riches se sont mis ensemble avec leurs enfants pour aller dans les Bahamas avec un avion privé, bateau qu'ils trouvent là-bas, privé, les hôtels, riches, riches. Ils sont rentrés et j'ai pris avec lui chaque lundi. J'ai demandé comment était le voyage, comment les riches se comportaient. Est-ce qu'il est heureux? Il m'a dit non, il est troublé, il avait des difficultés. Et j'ai dit, est-ce que tu lui as présenté le cas? Il a dit, il n'y a pas de moyens, il n'écoute pas, il s'en fout de tout ça. Mais il m'a dit que le riche qui l'a amené là-bas, ils étaient vraiment, on sent qu'il n'a pas de paix. L'autre est en train de mourir de cancer, son enfant est gay, et l'autre enfant perdu. Donc c'est un groupe de tourmentés, mais riches, riches. Alors, j'ai constaté que les multimillionnaires qui sont partis avec lui, ils ont un problème, le manque de pardon du péché. Alors, c'est pourquoi il est dit ici, heureux l'homme à qui Dieu ne compte plus le péché, parce que c'est pardonné. Le plus grand besoin de l'homme, donc je comprends, c'est le pardon du péché. Parce que je prêche aux pauvres le samedi, très pauvres, et je trouve que le péché, le tourmente, c'est la solution. J'enseigne le dimanche à des riches, mais ils m'approchent, ils ont des problèmes, des troubles, c'est toujours le péché. Donc j'arrive à réaliser que quand on dit que je confesse mon péché, Dieu m'a pardonné, c'est le plus grand bonheur qui puisse exister. Merci.
Merci, Papa Thomas, d'illustrer encore ceci. Pas seulement avec les témoignages des Écritures, c'est vrai, nous lisons cela, mais nous pouvons regarder. Papa José a dit tout au début que ce dont il nous est parlé ici, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des histoires, c'est la vérité. Et si c'est la vérité, nous pouvons encore, l'homme, le cœur de l'homme étant toujours le même, malgré le modernisme, la modernité et tout ce que nous avons à disposition aujourd'hui, le cœur humain est resté profondément assoiffé du pardon de Dieu. Et c'est vrai, le frère vient de nous rappeler que le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Par conséquent, le besoin dans le cœur de l'homme, aujourd'hui encore, c'est le pardon du péché. Et parce que nous comprenons cela, parce que nous avons expérimenté cela, alors, frères et sœurs, nous ne serons pas aussi heureux si nous gardons cette bonne nouvelle, parce que c'est vraiment une bonne nouvelle, si nous la gardons pour nous-mêmes. Les gens autour de nous, dans la famille, dans la maison, nos amis que nous côtoyons au travail, à l'école, ces hommes qui apparemment semblent être heureux, ces personnes sont mordues par le venin, par le péché, et le venin du péché les tourmente. Nous avons une bonne nouvelle avec nous, nous avons le remède avec nous que nous pouvons prescrire, que s'ils croient eux aussi en Jésus-Christ, ils peuvent être sauvés. C'est triste d'entendre, comme dans le témoignage de tout à l'heure, que la personne qui souffre, qui est tourmentée, lorsqu'on lui prescrit ou qu'on lui présente le remède qui est la croix de Christ vers laquelle il doit se tourner avec un cœur repentant pour obtenir le pardon des péchés, ce cœur, ces personnes n'écoutent pas ou ils rejettent ce que le Seigneur donne. Bien-aimés, si parfois le monde rejette, je me dis toujours, Seigneur, pourquoi est-ce que moi j'ai cru? Et pourquoi est-ce que l'autre, celui qui est dans la rue, celui qui est à côté de moi, ne croit pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Je comprends que le Seigneur me fait grâce, et la même grâce aussi est présentée à l'autre. J'ai reçu cette grâce par la foi. en présentant la bonne nouvelle, le remède contre le péché, nous devons aussi accompagner cela de prières parce que seul Dieu peut vraiment attirer ces cœurs-là vers lui. Parce que, imaginez, le prix a déjà été payé. Et si les gens ne sont pas sauvés, je ne pense pas que Dieu sera content de voir que le repas est présenté déjà sur la table, le monde affamé est dehors, et personne ne veut rentrer, en tout cas pour se mettre à table et manger, alors qu'on est gratuitement, gracieusement invité. Puisse le Seigneur se servir de nous, afin que tous ceux qui ne croient pas en lui, le Seigneur le mette sur notre chemin, et qu'il nous donne la parole de foi, la parole de témoignage, afin que à notre suite, ils peuvent aussi venir et connaître le bonheur d'un cœur repentant par la foi en Jésus-Christ. Je redonne la parole au pasteur José.
Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé, je descends au verset 11. La question de la circoncision d'Abraham. La septième question que nous nous posons toujours, c'est de savoir si il y a une vérité que le Seigneur nous révèle ou me révèle dans les textes. Pour moi, ce soir, c'est la circoncision d'Abraham par rapport à sa foi. Jusque-là, je voyais que Abraham a reçu l'ordre de se circoncire et de circoncire les siens avant qu'il soit déclaré juste. Mais d'après le texte du jour, je vois que non, Dieu l'a justifié avant. C'est-à-dire que Abraham, comme nous avons dit, a eu confiance en l'Éternel. Il a cru à l'Éternel. Et ce n'est que quelques années plus tard que le Seigneur lui demandera ce signe-là de la circoncision. Donc, la circoncision n'est pas un signe pour prouver ce que l'homme est devant Dieu. La circoncision que nous pratiquons aujourd'hui, pour nous qui venons de nos pays d'Afrique, n'est pas comme celle que les Israélites pratiquent. Même aujourd'hui, ils pratiquent la circoncision. Pour eux, parce que je suis israélite, je dois me circoncire. On doit circoncire le bébé à 8 jours. Quand il a l'âge de 8 jours, on le circoncit pour faire de lui un véritable juif. Mais quand on regarde la parole, la circoncision, considérée dans ce sens, c'est montrer qu'on n'a pas connu le sens que Dieu l'a institué. Donc, je vis aujourd'hui que Abraham a été déclaré juste avant la circoncision. Et ce qui fait que même nous qui pratiquons la circoncision, nous ne pouvons pas la lier avec notre foi en Dieu d'Abraham. Non. La foi, c'est la foi. La circoncision, c'est la circoncision. Pour nous, aujourd'hui, ça fait partie de l'esthétique masculine, mais il n'a pas le sens que la parole donne. Voilà ce que je voulais partager, bien-aimé. Merci.
Merci, merci encore. C'est vrai que Dieu, dans le texte ici, il a donné la circoncision comme étant signe d'appartenance ou d'entrée dans l'alliance que Dieu traitait avec Abraham et avec sa postérité après. Donc, ce signe vient après que Abraham ait cru et qu'il ait été déclaré juste aux yeux du Seigneur. La même relation peut être faite aujourd'hui. Les signes du baptême, nous entrons dans le baptême après avoir cru, parce que le baptême devra être l'illustration ou la manifestation de la foi qui est dans notre cœur. Nous avons cru en Jésus et à l'extérieur, nous montrons que nous avons cru, évidemment, en nous faisant baptiser comme étant un lien entre nous et Christ quand nous choisissons de nous conformer à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Le Seigneur lui-même avait dit, comme dans Marc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le baptême est un signe de la foi qui est intérieure dans notre cœur. Il est manifesté, le baptême manifeste la foi qui est en nous. Donc, sans la foi, le baptême devient juste un symbole comme n'importe lequel, mais qui n'a pas de vrai sens spirituel. Merci, frère. Je donne la dernière parole au pasteur Richard.
Merci beaucoup, papa, pasteur, pour la parole encore une fois. J'ai pris que nous puissions conclure sur, revenir encore sur ce bonheur dont nous venons de parler, d'être pardonné. Que dans le verset 8 et 9, le verset 9 dit « Ce bonheur, c'est un bonheur. » Et nous, surtout aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, comme nous connaissons la Bible, du moins dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, qui déclare que si nous confessons nos péchés, lui, Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Combien plus forte, donc en nous, on ne devait pas avoir donc l'idée de garder pour très longtemps un péché nous ronger. Et dès que nous l'Esprit de Dieu nous démontre que nous avions péché, le plus tôt possible, d'ailleurs on l'appelle bonheur, alors le plus tôt possible, Dieu veut que nous puissions confesser ce péché-là. Et la joie qui vient après avoir été pardonné par ce Dieu-là, ce verset, du moins le texte d'aujourd'hui, nous dit que c'est un bonheur. Et cela nous encourage encore, un autre plus, nous encourage encore à courir au bas de la croix pour confesser nos péchés dès que l'Esprit de Dieu identifie un péché dans notre vie. Merci.
Merci beaucoup, mon frère. Bien-aimé, ce soir, nous avons été exposés à un exemple. En fait, pour mieux comprendre cela, nous pouvons repartir encore avec les questions qui nous sont posées pour nous aider à méditer. De quoi est-ce qu'il a été question? De qui est-ce qu'il a été question ce soir? Il a été question de l'illustration de la justification par la foi en Dieu. Et Abraham, le fondateur de la nation juive, le père, le patriarche de la nation juive, qui a été présenté comme un exemple de foi et de confiance en Dieu. Et y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? L'exemple d'Abraham, avec toutes les interventions que nous avons écoutées, est un exemple à suivre. C'est un homme qui a choisi délibérément, volontairement, de faire confiance à Dieu pour sa vie du début à la fin. À partir du moment où Dieu a initié cette relation avec Abraham, Abraham a choisi de faire confiance à Dieu. Nous avons entendu qu'il était un homme de même nature que nous, parce qu'il était un homme fait de chair et de sang comme vous et moi, mais c'est un homme exceptionnel parce qu'il a choisi de faire confiance à Dieu. Et que son exemple devient notre propre exemple à suivre aussi, parce que en l'imitant, en faisant comme lui a fait, nous pouvons nous aussi devenir exceptionnels. Nous avons accès à la bénédiction que Dieu lui a faite à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui, en accomplissant ce qu'il a accompli pour nous, si nous croyons en lui, Jésus nous ouvre les portes des bénédictions d'Abraham qui deviennent aussi notre propriété parce que ces bénédictions sont maintenant à notre portée si nous choisissons de faire confiance à Dieu. Alors, quelle vérité Dieu nous révèle-t-il dans ce texte? Si c'est vrai, si ça marche au plan spirituel, comme ceux et celles qui ont véritablement expérimenté le bonheur, la joie d'être pardonné. Si ça marchait au plan spirituel, pourquoi ça ne marcherait pas aussi au plan matériel et physique? De la même manière que la promesse faite à Abraham a fonctionné au plan spirituel, il a marché avec Dieu, Dieu a matérialisé ce qu'il avait promis, en lui donnant une postérité, en devenant, Dieu a dit, tu deviendras un homme important. Dieu lui a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Vous et moi, nous ne sommes pas issus physiquement, biologiquement d'Abraham, mais aujourd'hui nous nous réclamons de lui parce que nous avons eu la foi comme Abraham. Dans Galates 3, il est dit, au verset 9, que ceux qui ont la foi sont bénis comme Abraham le croyant. Voilà la vérité que Dieu nous révèle encore ce soir. Ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc si nous avons cru en Jésus, restons fermement accrochés à notre Seigneur, croyant tout ce qu'il a accompli, que c'est pour nous qu'il l'a fait, et que maintenant nous pouvons nous aussi marcher jour après jour dans la foi et la confiance et l'obéissance à Dieu, comme Abraham l'a fait, ainsi nous aurons, nous aussi, accès à tout ce que le Seigneur a promis, parce que Dieu est fidèle et il manque à aucune promesse. Il est digne de confiance. Voilà pour ce soir, frères et sœurs. Pour demain, nous continuons la méditation dans le chapitre 4. Nous lirons le reste du chapitre, c'est-à-dire du verset 13 jusqu'au verset 25. Et nous aurons les mêmes questions comme ce soir, les questions 1, 3 et 7, pour nous aider à méditer. Je donne la parole à Papa Célé pour les annonces et je vais demander au pasteur Richard de clôturer par la prière finale.
Oui, merci Papa José. Donc, les frères et sœurs qui sont à la radio, ils sont en Alberta et au Québec. Verset 1 et 2, nous rappelons que si nous voulons réécouter nos méditations enregistrées, nous n'avons qu'à rentrer dans notre site, dans la partie sur la même ligne avec tous les menus. Nous allons dans médias et puis nous allons médias audio et puis méditation. Nous aurons toutes les méditations enregistrées. Voilà, nous pouvons faire cet exercice pour rentrer et écouter ce que nous avons. Nous n'avons peut-être pas été là. Nous pouvons réécouter beaucoup de méditations passées. Trois, c'est concernant le camp biblique. Ça concerne nous qui sommes là et tous ceux qui nous écoutent à travers le monde qui aimeraient participer au camp biblique de fin juillet, début août à Chimay. En Belgique, vous pouvez aller dans notre site sur le menu, il y a événements. Dès que vous cliquez sur l'événement, il y a moyen de s'inscrire et toutes les précisions plutôt vous seront données après. Merci.
Merci beaucoup, Papa Célé. Papa Richard, vous avez un sujet de prière à présenter?
Oui. Là, nous avions hébergé une sœur au nom de Marie Timba ici dans notre famille quand nous étions mariés Il s'est marié, elle s'est mariée. Il y a eu des complications avec le dossier de l'immigration. Ils sont, se sont retrouvés à Toronto. On l'a trouvée hier morte. Ah, pardon, samedi, on l'a trouvée hier, ah, samedi morte. Et on est en train de faire les investigations. J'ai reçu le message seulement aujourd'hui. Donc, priez pour. Elle a laissé deux enfants qui sont bouleversés. Et je devais annoncer la famille, le message à la famille en Afrique. Donc, nous attendons l'autopsie et tout cela. Donc, je vous communiquerai que le Seigneur vraiment prend soin de la famille. Bon, nous allons prier. Dieu le Père Tout-Puissant, nous te bénissons, Papa, parce que nous ne marchons plus par nos expériences, nos capacités intellectuelles ou bien nos cultures, mais nous marchons ayant confiance en toi. Merci, Papa, pour ta parole qui a retenti à notre langage. Merci, Papa, pour ta parole que tu as semée dans nos cœurs. Père éternel, aide-nous, Seigneur, maintenant dans la mise en pratique. Devant n'importe quelle situation nous croisons, que nous puissions avoir confiance en toi. Père éternel, même le sujet que je venais de partager, nous avons confiance en toi. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton enfant, Seigneur, que tu as disposé au Père, Seigneur, ce soir pour canaliser ta parole dans nos cœurs. Nous le recommandons auprès de toi, afin que, Seigneur, tu le bénisses encore davantage. Père éternel, que ta bénédiction se multiplie dans la grande famille Fimes, dans tout ce que nous entreprenons, que nous soyons des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui marchent contents sur toi. Bénissons ton nom, nous glorifions ton saint nom. Même cette nuit, pendant notre sommeil, Seigneur, nous prions que nos esprits puissent continuer à écouter ta voix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Amen. Amen.
Merci beaucoup, frères et sœurs. Merci pour votre participation ce soir. Que le Seigneur nous bénisse et à demain. Amen.